Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de la mettre. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
Vous écoutez Le Tarn à l'envers, l'émission de CFM Radio qui met en lumière des hommes et des femmes qui tracent un chemin durable et réinventent notre lien à la terre et l'environnement. Chaque semaine, partons à la rencontre et à la découverte d'initiatives vertueuses et inspirantes. Le Tarn à l'envers sur CFM Radio pour cultiver l'espoir et semer demain.
Le secteur du bâtiment représente 43% des consommations énergétiques annuelles françaises et il génère 23% des émissions de gaz à effet de serre français. Donc, pour plus de durabilité dans la construction et la rénovation du bâti, mais aussi pour diminuer les factures d'énergie de chacun et chacune, certains et certaines ont pris le parti de l'éco-construction. Pour en parler, je suis avec Gaël Cortès, qui est artisan au sein de la ferme collective et polyvalente des chlorophylliens à Monestier dans le Tarn. Bonjour Gaël.
Bonjour Nina.
Alors, pour se mettre un peu au niveau, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est globalement l'éco-construction ?
C'est une vaste question. Ça veut un peu tout et rien dire. Et j'aime bien quand il m'arrive de donner des petits cours sur ça, demander aux gens ce qu'ils en pensent et se demander... qu'est-ce que c'est écologique ou pas, qu'est-ce que c'est naturel ou pas. En anglais, on parle aussi de natural building, des choses comme ça. Est-ce que le pétrole, c'est pas naturel? Est-ce que le plastique, du coup? Bref. Donc, mais on peut essayer de faire une synthèse en se disant que ce qu'on se propose dans l'éco-construction, c'est d'employer des matériaux qui vont répondre à plusieurs critères, dont des critères de moindre impact environnemental, de moindre impact sur la santé humaine, autant au moment où ils sont mis en œuvre que dans la vie du bâtiment. Quand on parle de moindre impact, il peut être divers et varié. Et c'était pour reboucler avec ce que tu disais sur les chiffres de consommation du bâtiment en énergie ou les émissions d'oxyde de carbone, enfin équivalent. Et parce qu'il y a aussi ce regard-là qu'on peut avoir avec l'éco-construction pour ces questions d'énergie. Et c'est ce à travers quoi moi je suis arrivé dans l'éco-construction, en l'occurrence. Parce que moi, je me destinais à être ingénieur, a priori, à un moment, notamment pour travailler dans les énergies renouvelables, donc pour se dire comment on vient répondre à la production d'énergie qui soit différente de celle des fossiles, qui, en plus d'être des enjeux écologiques, sont des enjeux aussi géopolitiques. Là, je pense à ça par rapport à l'actualité, avec Donald Trump qui se permet de retourner au Venezuela chercher du pétrole. Donc il y avait aussi cet enjeu-là dans les énergies renouvelables, mais il y a un moment, bon, pour diverses raisons, je m'en suis détourné, et notamment en me disant, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt de revenir un peu en amont, plutôt que de créer de l'énergie, ou transformer de l'énergie pour l'utiliser? Peut-être que dans le bâtiment, on n'a peut-être pas autant de besoin d'énergie que ça, et éviter de la gaspiller en fait. D'où les questions d'isolation, alors qu'ils ne sont pas spécifiques à l'éco-construction, on va retrouver de l'isolation qui est hors champ de l'éco-construction. Donc agir sur ça, c'est un des gros facteurs sur lesquels on peut agir, qui est la réduction en fait, d'utilisation de l'énergie dans le bâtiment. Et ça, bien entendu, le champ de l'éco-construction le prend en compte et le met au cœur de sa démarche. Et c'est vrai que la manière, même si je me voyais plus moi faire de la maison en bottes de paille, qui est un matériau génial, et notamment donc, avec ces visées d'isolation, clairement. Et tout ce qui est maison passive, c'est vraiment des maisons où on arrive, dans le neuf en tout cas, à avoir quasiment aucune consommation d'énergie ajoutée. La force des choses a fait que en fait, je me suis retrouvé surtout à faire des enduits à la terre.
Et alors pourquoi les enduits à la terre ?
Et alors pourquoi les enduits à la terre ? Parce que c'est tout doux. et c'est très agréable à utiliser. Je pense que j'ai été fasciné par les enduits à la terre lors d'un chantier participatif, dur à dire ça, qui a été à la fois un stage de par un architecte qui donnait ça, parce qu'il y a carrément, on a la chance en France d'avoir un master spécialisé sur la construction en terre crue pour les architectes et les ingénieurs qui se donnent à Grenoble. Et Et cette personne-là donnait ce stage et encadrait ce chantier-là. Et on a fait beaucoup d'enduitaires. Et notamment, on a fait un truc que moi, j'ai trouvé merveilleux, qui était d'enlever le torchis, donc ce mélange de terre et de paille, d'une cloison, d'une cage d'escalier en haut du bâtiment qu'on rénovait. En fait, la cloison était abîmée, le torchis était abîmé, il manquait des bouts, on a enlevé tout ça. On a séparé les bois de la terre, on a repris cette terre, on l'a remélangée à de l'eau, on a rajouté un peu de terre parce qu'il en manquait, avec de la paille. On a refoulé tout ça au pied, comme vraisemblablement l'avaient fait des gens un siècle ou plus auparavant, et on a remis ça en place. Et là, oui, c'est venu me fasciner clairement l'utilisation de la terre parce que je pense la chose la plus incroyable de la terre, qui est sa réversibilité, on dit, le fait de pouvoir la réemployer à l'infini, même si l'infini n'existe pas réellement, mais quasiment. Et effectivement, ça, voilà, ça je pense, c'est la partie qui m'a le plus émerveillé. Et sachant que derrière, bah, alors il y aura aussi beaucoup, beaucoup d'avantages à utiliser la terre crue pour son moindre impact environnemental. Notamment, bah, et c'est bien pour ça qu'on parle de terre crue, c'est parce qu'elle n'est pas cuite, donc pas d'utilisation d'énergie pour transformer la matière. Une ressource qui est quand même répartie de manière...
Qu'on trouve beaucoup autour de chez nous.
Quoi. Ouais, autour de chez nous. Alors j'allais dire même partout sur la planète, parce qu'il faut savoir que quand même 50% du patrimoine mondial, c'est de la terre crue, ce qui est énorme. Et on trouve voilà, ici, autour de chez nous, communément la terre crue. On le voit bon, surtout en Occitanie avec les briques de terre crue, mais ici, dans le Ségala, notamment autour de Mirandol, même Blaye, Carmo, alors moins sur le plateau Cordé, mais plus en allant de Corde à Albi aussi, on va retrouver du Pisé, qui est notre construction, technique de construction en terre crue. Donc c'est très, on la trouve un peu partout, et donc ça fait moins d'énergie de transport aussi, ça diminue ce qu'on appelle voilà, son énergie grise. Donc ça c'est pour les questions énergie, mais voilà, ça n'a pas d'impact, pas de toxicité envers les autres éléments naturels, il n'y a pas de... Voilà, on n'a pas de déchets toxiques quand on a fini de faire le chantier. Et surtout, également, voilà, pas de toxicité pour les humains qui vivent dans des bâtiments où il y aurait des enduits en terre crue. Et d'autres avantages encore, avec la terre crue, avec les enduits, mais c'est plus quand on a quand même de la terre dans la masse, comme on dit, enfin, quand c'est tout le mur, comme un mur en pisé, cette technique-là, où là, on va y avoir en plus des intérêts en termes de gestion de l'humidité et aussi de gestion de la température, parce qu'on... On dit que la terre est un climatiseur naturel, parce qu'en été, au moment où elle va relarguer son eau, ça va refroidir le mur, en prenant la chaleur de l'air ambiant. Mmh. Donc voilà, beaucoup d'avantages autour de la terre crue, mais aussi quelques petits inconvénients.
Alors quels sont-ils ces inconvénients?
Le principal inconvénient, on va dire, c'est que la terre est souvent teintée, colorée, et ça crée des ambiances en intérieur, notamment aujourd'hui, on est beaucoup porté sur le blanc, et notamment ce que ça crée, c'est avoir des espaces très lumineux. La terre apporte un côté voilà, un peu plus sombre en fait en intérieur, même si on peut trouver des terres qui vont être plus claires. Donc voilà, ça peut être un léger défaut. Bon, il faut dire, je le dis dès maintenant, moi à côté de tous les avantages, ça reste des tout petits défauts, des tout petits inconvénients, mais quand même, voilà, il faut les citer. Et elle a une moins bonne résistance à l'abrasion, disons, la terre. On va rentrer plus facilement dedans, avec des chocs. Ouais, un peu de moins bonne résistance à l'abrasion par rapport à la chaux ou au plâtre, voire au ciment, qui est alors encore plus résistant. Mmh. Mais quand on réfléchit un peu à où on la met, finalement, et peut-être en évitant de la mettre dans certains endroits et plus dans d'autres, c'est vrai qu'à la ferme, par exemple, on l'a dans la cuisine ou dans un autre passage, ils sont très sollicités. Bon, c'était pour faire un test, mais c'est vrai que ça s'abîme plus vite. Après, dans une chambre, par exemple, où on va moins passer tous les jours ou transporter du matériel ou je ne sais quoi, ça trouve aussi tout son intérêt. Et on peut, après, selon aussi comment on travaille l'enduit, là, j'ai derrière moi un enduit qui est très travaillé, sur lequel je m'appuie régulièrement.
Il est très lisse.
Il est très lisse.
Il laisse aucune trace sur les mains.
Voilà, et j'ai beau me frotter dessus, il tient très bien, quoi. Donc ça aussi, ça va dépendre de comment on travaille l'enduit. Donc voilà. Et finalement, même il y a des, enfin, je dis moins bonne résistance. En fait, ça dépend effectivement comment on fait l'enduit. Moi, je connais quelqu'un qui travaille encore un peu au Japon, qui s'est fait former là-bas. Il fait même des plaintes à la terre. mais avec de l'huile, il va rendre ça encore plus résistant. Donc bon, finalement aussi, c'est qu'on redécouvre un matériau qu'on a longtemps jugé archaïque.
Qu'on a beaucoup laissé tomber, parce qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup, quoi. Les intérieurs, ils sont beaucoup faits en placo et point.
Ouais, on l'a laissé tomber parce qu'on l'a oublié, ouais, aussi. Ouais. Concrètement, hein, on l'a oublié. Là, c'est vrai que...
Et puis, sa mise en œuvre est peut-être aussi un peu plus longue et coûteuse.
Alors, c'est sûr qu'il y a cette question-là qui, pour l'instant, on bute vachement sur ça. Moi, ça, c'est les questions qui m'animent beaucoup sur à qui je peux proposer de tels enduits. Parce qu'en général, par rapport à une cloison en plaque de plâtre, en placo, comme on dit, qui est une marque, ça, c'est plus cher. Alors, c'est pas non plus le double, mais quand même, et puis selon les cas, en fait. Donc bon, ça pose question de comment rendre ça plus accessible. Mais c'est vrai qu'il y a tout un mouvement historique qui a fait que les enduits ont disparu aussi. C'était plus simple, avec toute l'énergie qu'on a, notamment fossile, de créer des plaques en usine. Et de venir les assembler sur place, c'était moins cher économiquement pour diffuser ça, quoi. Maintenant, on voit que bon, là, selon certaines utilisations, pour certains bâtiments, voilà, avec tous les intérêts que ça peut avoir, ben, on peut se demander si c'est pas plus intéressant de mettre un peu plus d'argent sur avoir un système d'enduit que de plaques de plâtre.
Et est-ce que tu trouves qu'il y a un intérêt croissant pour ces techniques-là, de déco-construction en général et d'enduit en particulier ?
C'est une bonne question. C'est vrai que moi, je ne suis plus trop connecté au réseau...
Des bâtisseurs,
en général. Ouais, des bâtisseurs, des fédérations. C'est quand même un produit, vu qu'avec un ami, un autre artisan des parages, je ferai du tertre, qui est lui à Mirandol. On a créé une association, la Terris, en hommage justement à la Terris locale, qui est le pisé local, cette technique de terre crue. Et pour diffuser un peu ces pratiques-là...
En tout cas, toi, ton planning, il est bouclé.
Alors, mon planning est bouclé, en effet, pour l'année. Mais oui, non, l'intérêt, est-ce qu'il est croissant ? Justement, bon, au travers de l'association, on a pour but de se reconnecter avec d'autres associations pour voir, pour se remettre en lien et en réseau et voir où est-ce qu'on va. J'ai l'impression que ça reste marginal et lent à l'échelle de... Alors, je sais pas si, ouais, même du territoire national ou autre, c'est quand même des pratiques encore marginales à l'échelle de ce qui se fait dans le bâtiment. Heureusement, quand même, de manière générale, la loi fait qu'on doit isoler les constructions neuves et qu'il y a quand même quelque chose qui est posé dans ce sens-là. Au niveau des matériaux qu'on va utiliser, toutes les démarches globales, voilà, ça, pour moi, l'éco-construction, et pour le redire et pour reboucler sur une définition, c'est surtout une démarche, en fait, une démarche d'analyse, en fait. Il n'y a pas de noir ou blanc de ce qui est de l'éco-construction, ce qui n'en est pas. Il y a des choses qui s'y rapprochent plus et qui s'y retrouvent plus que les autres, même par habitude, mais voilà, parce que ça recoupe en fait toute une analyse multi-critères qui fait que ça rentre dans ça, mais ça, c'est avant tout une démarche, ça peut prendre en compte beaucoup de choses. Là, on n'a pas parlé de réutilisation des eaux usées, de plein de choses dont on pourrait
ça
parler.
Ça peut aller, voilà, très loin, en fait.
Ça peut aller très bien en termes d'analyse, voilà, de localité, de renouvelable, de moindre impact sur la santé, sur les autres écosystèmes, enfin, voilà, sur beaucoup de choses.
Économie circulaire.
Voilà. Et ça, bon, moi, j'ai quand même l'impression que ça reste marginal, quoi. Mais quand même, oui, peut-être pas tant. En tout cas, moi, j'ai de la demande quand même des gens. Et après, dans tous les cas, même à l'échelle locale, et notamment de par des procédés, bah, justement, d'entraide, qui sont pas non plus nouveaux, hein, les chantiers, l'accompagnement, l'autoconstruction, les chantiers participatifs, finalement, c'est faire écho à comment les familles paysannes de nos territoires construisaient leurs maisons avant, ben, en faisant venir la famille, les amis. Il y avait parfois un ou plusieurs artisans spécialisés qui étaient quand même là pour guider tout ce monde-là pour reconstruire la maison, mais aussi c'était ces moments-là de partage et aussi, voilà, qui constituaient ce qu'on appelle une culture constructive, qui fait que le construire ensemble, c'est pas que des visées aussi techniques pour le bâtiment ou d'économie d'énergie ou je ne sais quoi, mais c'est aussi partager des moments ensemble, qu'est-ce qu'on, les chants qui vont être associés à ces moments-là, la musique qui va être associée à ça, les bons petits repas qui vont être associés à ces moments-là, et se faire ensemble qu'on peut redécouvrir aussi à travers ces mécanismes-là. On a quand même ces endroits-là de redécouverte, de création et de faire ensemble autour de l'éco-construction pour vivre dans les bâtiments. Voilà. Plus économe en énergie, plus sain pour nous, pour l'environnement et peut-être plus gai.
Donc l'éco-construction, c'est pas que de la technique, c'est aussi de l'humain, c'est aussi du lien.
C'était Le Tarn à l'envers, l'émission de CFM Radio qui donne la parole à celles et ceux qui œuvrent pour un avenir plus durable. On était avec Gaël Cortès, artisan en éco-construction, sur la ferme collective et polyvalente des Chlorophylliens à Monestier, dans le Tarn. Un deuxième épisode vous attend la semaine prochaine où Gaël nous expliquera un peu plus les techniques constructives qui ont été utilisées pour la rénovation sur la ferme.